Amen, de partager ces choses. On va ouvrir la parole ce matin. Je ne vais pas à proprement vous parler de Pâques ce matin, quoique je vais quand même y venir forcément un petit peu. Béni soit Dieu, parce qu'on n'attend pas le week-end de Pâques pour parler de la Pâque, mais à toutes nos réunions, on parle de Jésus qui est mort, mais qui est ressuscité. Dans toutes nos réunions, on met en avant la victoire de Jésus sur le péché, sur la mort, sur le diable et sur tout ce qui nous fait la guerre. Jésus sur la croix a tout vaincu. Et ce matin, si j'avais un titre à mettre à ce message, c'est « Jésus a vaincu tous nos ennemis ». Alléluia. Et je voudrais ce matin mettre le doigt sur quelque chose qui me semble important. Si on veut avancer avec Dieu, si on veut grandir avec Dieu, si on veut voir la gloire de Dieu dans notre vie. Et je pense que si on est là ce matin, c'est parce que c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut. On veut voir Dieu agir, on veut voir Dieu se manifester, Dieu se glorifier. Alors ce qu'on va voir ce matin, ce quelque chose-là, c'est extrêmement important. Et de quoi je veux parler? Je veux parler ce matin d'une attitude qu'a eu un jour une femme de la Bible. Je vais commencer par elle, mais on va voir aussi d'autres exemples pour vous montrer que c'est quelque chose, c'est pas un cas unique, mais c'est quelque chose qui se retrouve dans toute la parole. Voyez, une attitude qu'a eu une femme de la Bible qui a fait que Dieu s'est glorifié, qui a fait qu'à un moment donné, Dieu a changé les situations, la situation, Dieu a changé les circonstances. Cette femme, c'est Esther. Est-ce que vous aimez le livre d'Esther? Ouais. Je vous encourage à lire le livre d'Esther. C'est un livre qui va rebooster votre foi. Si vous êtes dans un moment de découragement, lisez le livre d'Esther. Ce livre, il a une particularité, c'est que c'est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'apparaît pas. Seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'apparaît pas, et pourtant, Dieu y est présent du début à la fin. J'aimerais peut-être dire à quelqu'un ce matin, tu as peut-être l'impression que Dieu est absent en ce moment de tes situations, de ta circonstance, de ce que tu vis. Dieu n'est jamais autant présent que lorsqu'il semble absent. Et j'aimerais t'encourager ce matin. Si tu as l'impression que Dieu est absent, que Dieu n'est pas là dans ce que tu vis, j'aimerais t'encourager au travers du livre d'Esther. Regarde l'histoire d'Esther. Le nom de Dieu n'apparaît pas, pourtant Dieu se trouve partout. Et Dieu a agi d'une manière extraordinaire. Alors je vous resitue un petit peu le contexte, on va lire au chapitre 7. Il n'est pas très long, on va lire tout le chapitre 7, il y a 10 versets. L'histoire, c'est, je résume, je synthétise, c'est un homme qui s'appelle Aman. Aman, c'est un ennemi du peuple juif. Comme quoi, vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a entendu parler de certaines choses ces derniers temps. C'est d'actualité. Vous savez, l'antisémitisme, toutes ces choses-là, ça a toujours existé. Ça existait déjà avant Hitler. Et vous avez, dans le livre d'Esther, vous avez l'histoire de Aman. Et ce Aman, il vouait une haine au peuple juif. Et il va tout faire pour le détruire. Il va tout faire pour liquider ce peuple. Voyez. Et alors qu'il semble y arriver, alors qu'il est sur le point d'y arriver, Dieu va intervenir d'une manière extraordinaire. Et c'est là qu'on va prendre un peu l'histoire. Esther, chapitre 7, verset 1er, il est sur le point d'y arriver. Et là, il nous est dit ceci. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux au roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande. Et sauve mon peuple, voilà mon désir. » Parce que Aman était en train de vouloir les liquider tous. « Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore, si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité sur le lit sur lequel était Esther. Et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman, et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées, environ 25 mètres. » Le roi dit qu'on y pend Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Amen. Si vous lisez le chapitre qui précède, donc le chapitre 6, vous allez vous rendre compte que la situation est en train de tourner. Dieu est petit à petit en train de renverser la situation. J'aimerais peut-être dire ce matin que c'est important de se rappeler que dans nos vies, Dieu est toujours celui qui sait renverser les circonstances et les situations. Peut-être quelqu'un a besoin de l'entendre ce matin. Peut-être tu traverses un moment difficile. Et tu te dis, mais où ça va aller tout ça? Dieu est celui qui change le mal en bien, qui est capable de changer les temps et les circonstances. Il est capable de retourner les situations. Dieu est un Dieu renversant. Renversant, qui renverse les statistiques, qui renverse les tendances. Où on se dit, c'est fichu, c'est fini, c'est terminé. Dieu est capable de changer les choses. Et c'est ce qui se passe dans ce livre. Le chapitre 6 montre que Dieu est en train petit à petit de renverser la tendance. Sauf que, à ce moment-là, au chapitre 7, Esther n'en a pas pleinement conscience. Elle ne s'en rend pas encore compte. Souvent, on est comme Esther. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de faire les choses dans les coulisses, mais on ne le sait pas. On ne le voit pas. Et c'est pour ça qu'on s'affole. C'est pour ça qu'on s'agite, vous voyez. Et donc, Esther ne le sait pas. Et voilà que le roi vient chez elle avec Aman pour la deuxième fois. Parce que si vous lisez le contexte, le roi était venu avec Aman une première fois. Il lui avait dit sensiblement la même chose. Qu'est-ce que tu demandes? Elle lui avait dit, ben, revenez demain et je vous le dirai. Donc, ils reviennent pour la deuxième fois, c'est ce qu'on a lu. Et là, cette fois, Esther est beaucoup plus explicite. Elle va aller un petit peu plus loin, elle va répondre à la requête. Verset 2, que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Et la reine Esther, verset 3, va dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, sauve mon peuple, voilà mon désir, nous sommes vendus, moi et mon peuple, etc. etc. Et on se rend compte que Assyrus, le roi, comprend pas. Et comprend pas pourquoi? Parce qu'il s'est fait manipuler par Aman. Comme quoi les manipulateurs, ça a toujours existé. Hein. Ça a toujours existé. Et il s'est fait manipuler, il s'en est pas rendu compte. Alors verset 5, il lui dit, mais c'est qui? De qui tu me parles? Vous voyez, pour dire que lui, il comprend pas ce qui se passe. Et ce qui m'interpelle, c'est le verset 6. Je voudrais que vraiment ce verset nous interpelle, parce qu'on pourrait passer très vite là-dessus, mais c'est extrêmement important encore pour nous aujourd'hui. Il va dire, Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Vous savez ce qu'elle fait là, Esther? Elle fait quelque chose qui pourrait sembler banal, quelque chose qui semble très simple, mais qui est extrêmement important encore pour nous aujourd'hui. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle cite l'ennemi. Elle le nomme. Voyez. Et je crois qu'il y a un message important pour nous, mon frère, ma soeur, mon ami. C'est important que devant Dieu, et on y est ce matin, parce que là, ça s'est passé devant le roi. Ce matin, nous sommes devant le roi des rois, parce que le Seigneur est là. C'est important que devant le Seigneur, on fasse comme Esther, on sache nommer, citer nos ou notre ennemi. Et vous comprenez bien que là, je ne parle pas de personne. Hein. Comprenez bien. Permettez-moi de poser la question ce matin, c'est qui ou c'est quoi ton ennemi? C'est qui ou c'est quoi? Parce que c'est important de le nommer devant Dieu, de le formuler devant Dieu. Et c'est important de le réaliser parce que si vous lisez l'histoire, on l'a fait ensemble, mais vous relisez peut-être à la maison, vous allez voir que c'est à partir de là que la situation, elle se tourne complètement. Que, alors que ça semblait mal embarqué, c'est là, à ce moment-là, quand elle dit c'est Aman, ce méchant-là, elle cite l'ennemi qui est là, elle le nomme explicitement, c'est là que tout change. Et c'est là que la situation se renverse en sa faveur et en faveur de son peuple. Voyez. Et ce principe-là, vous le retrouvez dans toute la parole. Et on va mettre quelques exemples et je reviendrai sur Esther à la fin. Par exemple, rappelez-vous dans les évangiles, cette histoire qu'on connaît bien, de cet homme qui a amené un jour aux disciples de Jésus son fils qui était tenu par un mauvais esprit, qui le jetait tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Marc chapitre 9. Et il ne sait plus quoi faire, hein, le papa. Il va dire, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, mais il n'a pas pu. Voyez, Jésus va lui dire, mais depuis combien de temps il est comme ça? Depuis son enfance. Vous imaginez un peu le drame qui se vivait dans cette maison. Et puis là, regardez, le texte nous dit ceci. Ce papa va dire souvent, l'esprit, le mauvais esprit, l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Et regardez la suite. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et regardez, verset 24, un verset que les chrétiens connaissent. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et il cite son ennemi, l'incrédulité. Vous voyez, il n'a pas peur de dire au Seigneur, oui, je crois, mais je ne crois pas. Et il n'a pas peur, il ne cache pas, il ne dit pas, ouais, moi je crois, Seigneur. Non, il cite son ennemi. Et ça, c'est très important. Et peut-être que ce matin, au milieu de nous, l'incrédulité, c'est l'ennemi de quelqu'un. C'est l'ennemi de quelqu'un, c'est ton ennemi ce matin. Peut-être un ami qui est là, peut-être tu entends ces choses peut-être pour la première fois ou pour les premières fois, et tu vois ce qu'on a vécu ce matin, tu te dis, mais moi je voudrais bien croire, mais j'y arrive pas. Ces gens, ils croient, je ne sais pas comment ils font, moi j'y arrive pas. Et tu peux dire, Seigneur, tu peux dire à Dieu ce matin dans le secret de ton cœur, moi je voudrais bien croire, mais je suis incrédule, Seigneur. Tu peux lui dire, mais cite ton ennemi. Mais peut-être aussi un croyant. Peut-être tu es devant une situation comme ce père-là. Tu dis, Seigneur, moi je te connais, je crois que tu es capable de le faire, mais Seigneur, tu vois, mon incrédulité, elle reprend souvent le dessus. Tu es en droit ce matin de dire au Seigneur et de citer cet ennemi, de dire, Seigneur, en ce moment, ce qui me fait la guerre, ce qui est mon ennemi, qui m'empêche d'avancer, ce qui m'empêche de voir ta gloire, ce qui m'empêche d'être épanoui, de vivre pleinement ma foi, d'être joyeux en toi, c'est l'incrédulité. Tu peux le lire devant Dieu. Tu peux citer, c'est important d'ailleurs de le citer, de le formuler devant Dieu, Seigneur, je crois, mais je ne crois pas. Et vous remarquerez, vous lirez la suite de l'histoire, que Jésus a dit, ah bon, tu ne crois pas? Eh bien, rentre chez toi, hein. Quand tu croiras, tu reviendras. Hein. C'est ça que Jésus a fait? Non. À partir de là, Jésus va menacer l'esprit impur et l'enfant va être complètement délivré. Quand on formule devant Dieu, Seigneur, voilà. Bien sûr, ça demande de l'honnêteté, hein. Ça demande de l'humilité, ça demande d'être vrai. Dire, Seigneur, ben je te connais peut-être depuis des années, mais là, Seigneur, je suis devant un mur d'incrédulité. C'est dans mon cœur. Pourtant, je sais, j'ai entendu des témoignages. Mais voilà, Seigneur, c'est plus fort que moi. Dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur. Je pense aussi, on en a parlé dimanche dernier, dans le psaume 73, Asaph. Ceux qui étaient là, vous vous en rappelez. Asaph, c'est un homme qui est passé par une crise. Je l'ai dit, une crise de la foi. Pas une crise de foi. À mon avis, dans Arles, il y en a quelques-uns, ils ont une crise de foi ce matin. Que Dieu les bénisse, je ne les juge pas. Mais lui, il avait une crise de la foi, comme c'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin. Vous savez, des moments où, à cause des situations qu'on vit, ça ne va pas, quoi. Et puis, vous savez ce qui s'est passé, on l'a vu dimanche dernier, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et là, Dieu l'a visité, Dieu l'a renouvelé. Et un petit peu plus loin, quand il va mieux, il va dire quelque chose de très intéressant. On va l'afficher. Psaume 73, verset 21. Il va dire, lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Mais regardez, tu peux me remettre le verset d'avant. Il formule ce qui se passait à l'intérieur que personne ne voyait. Lorsque mon cœur s'est grissé. Il cite un ennemi là. Vous savez, ce n'est pas la première fois que vous m'entendez le dire, mais je vais le redire ce matin. Tous ces sentiments-là, toute cette famille-là, l'amertume, l'animosité, la jalousie, la rancœur, la colère, vous savez, et tous ces cousins-là, toute cette famille-là, hein, mais ce sont des ennemis pour nos vies. On ne peut pas avancer, on ne peut pas grandir avec Dieu, on ne peut pas faire de progrès quand cet ennemi-là a pris le dessus dans notre vie. Et j'ose le dire, à tort ou à raison. Parce que souvent, on se cache derrière le raisonnement. Oui, mais si tu savais, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Oui, d'accord. Mais en attendant, si mon cœur ce matin, si dans notre cœur, il y a de l'aigreur, il y a de la rancœur, il y a de l'animosité, et toutes ces choses-là, tous ces cousins, ces cousines, et tout, voyez ? Et les petits-enfants et tout là, voyez ? Tout ça, c'est des ennemis qui nous font la guerre et qui nous empêchent d'avancer. Et on peut faire ce qu'on veut, on peut jeûner, on peut prier, À un moment donné, il faut dire, Seigneur, tu vois, dans mon cœur, il y a de l'aigreur. Tu vois, dans mon cœur, il y a de l'amertume. Tu vois, dans mon cœur, il y a de la colère. Et on peut tout dire à Dieu, parce que ceci, parce que cela, etc., etc. Hein, on peut argumenter devant Dieu. On n'argumente pas à l'église devant tout le monde. Il y a des prières, ce n'est pas devant tout le monde qu'on les fait. Hein. c'est devant Dieu. C'est plus efficace. C'est plus utile. Et il cite cet ennemi lorsque mon cœur s'est grissé. Voyez. Et si peut-être ce matin, dans ton cœur, dans un cœur, il y a ce genre d'ennemi-là, dis-le au Seigneur. Cite-le. Seigneur, je veux pas faire semblant, je veux pas essayer de me cacher, je veux pas essayer de me justifier, je veux pas essayer de dire que j'ai raison. Mais Seigneur, dans mon cœur, il y a ces sentiments-là. Et vous savez, je ne vous apprends rien. Lisez la Bible, relisez, lisez notamment le Nouveau Testament. Vous savez, toute cette famille-là, ça attriste le Saint-Esprit. Ça nous empoisonne, ça nous infecte. Ça nous infecte. Hein. Je pense à ce verset des Hébreux, chapitre 12, « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume pousse en des rejetons, hein, et plusieurs en soient infectés. » Vous voyez, ça infecte. Et en général, quand c'est ça, mais ça, permettez-moi l'expression, excusez-moi, j'espère que je vais choquer personne, ça nous bouffe. Mais il faut le dire à Dieu. Seigneur, tu vois, c'est mon ennemi, ça. Asaph, il le dit, lorsque mon cœur s'est grissé. C'est bon de dire ça au Seigneur. J'en ai parlé un petit peu aussi la semaine dernière. Vous savez que Dieu lui-même, ce que je suis en train de dire, il le fait. Rappelez-vous avec Caïn. On a parlé un petit peu de Caïn dimanche dernier aussi, vous rappelez? Quand Caïn est irrité, il est énervé parce que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande de son frère et pas sur la sienne. Alors j'ai expliqué un petit peu, je ne vais pas y revenir. Mais regardez, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Et regardez ce qu'il lui dit, verset 7. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, regardez, le péché se couche à ta porte. » Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Dieu lui-même cite l'ennemi, le péché se couche à ta porte. Il lui dit, il ne lui cache pas, le péché il est là, ses désirs se portent vers toi. Et si tu te laisses manger par cet ennemi-là, tu vas te perdre. C'est ça que Dieu est en train de dire à Caïn. Lui-même, Dieu cite l'ennemi, le péché. Malheureusement, on sait que Caïn va se tromper d'ennemi. Il va tuer son frère. J'ai envie de nous dire, peut-être quelqu'un ce matin est en but avec un péché ou le péché ou un péché. Quel que soit le nom. Ça peut être l'alcool et tout un tas d'autres choses. C'est du péché. Ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être une manière de fonctionner, ça peut être une relation dont on sait très bien que devant Dieu, ça passe pas, du moins cette manière de fonctionner. Et je crois que c'est important d'être capable d'arriver devant Dieu et dire « Seigneur, tu vois mon péché » et de le citer. Tu vois, Seigneur, ça me domine, c'est plus fort que moi. La Bible dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». Et peut-être ce matin, il y a quelque chose où il y a plusieurs choses qui ont triomphé de toi. Et ce matin, tu peux le dire au Seigneur. Tu peux le dire au Seigneur. « Seigneur, voilà mon péché. Voilà, tu vois, ce qui me tient, ce qui me pourrit la vie. Je sais, mais j'y arrive pas. Alors Seigneur, viens me délivrer. » Mais c'est le premier pas vers la délivrance. C'est le premier pas de citer l'ennemi. Dieu le fait. Le péché se couche à ta porte. Caïn n'a pas bien réagi. Ce matin, tu peux dire au Seigneur, sans avoir peur, sans avoir honte, mais tu peux dire honnêtement, dire, Seigneur, voilà mon péché. Et le citer devant Dieu. Et Dieu qui est plein de miséricorde va te secourir. D'ailleurs, je prends un autre exemple, je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est David dans le psaume 32. Qui va dire ces paroles, « Tant que je me suis tu », parce que ça, c'est pas bon, ça. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Vous savez, quand on essaye de cacher, de minimiser, ou qu'on essaye de se rassurer en disant, « Ouais, mais bon, l'autre, il fait pire que moi. Hein. »« Ah ouais, non, mais l'autre, il va... Ouf, » et... Mais je l'ai eu fait. Alors, on l'a tous... Enfin, je vais pas dire on l'a tous eu fait. Non, moi, je l'ai pas fait. Bon, bref. Mais... Des fois, on se rassure comme on peut, voyez, on s'accroche aux branches. Ouais, mais bon, moi, je sais un truc sur l'autre, c'est pire que moi, alors bon, voyez. Mais l'autre, c'est pas notre problème, l'autre. Hein. Mon problème, c'est moi. Et il a dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Voyez, il y avait un combat à l'intérieur qui était là. Il sentait bien. Peut-être ce matin, quelqu'un sent bien que ça ne va pas. Que, voyez. Alors, qu'est-ce qu'il fait, David? Je gémissais toute la journée. Vous imaginez l'état dans lequel il est? Mais il a en pleine déprime, là. Ça ne va pas, quoi. Je gémissais toute la journée. On ne peut pas dire que c'était le top. Hein. Ce n'était pas le top. Hein. C'était pas, il ne chantait pas Alléluia. Hein. Et regardez. Nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ben oui, parce qu'il sentait bien. Sentait bien. Vous savez, je le disais à quelqu'un, il se reconnaîtra, mais je le dis pour tout le monde ce matin. Tant que notre conscience, elle fonctionne, c'est bon signe. Si ta conscience te reprend, alléluia, bénis Dieu. Ça prouve que tu es encore en vie. C'est le jour où elle ne fonctionne plus que c'est plus bon. Et là, il dit, nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Mais parce que Dieu essayait de le faire réagir, de le faire, voyez, dans le bon sens du terme. Et il le sentait. Et des fois, on est sur des voies où on sait très bien que ça ne va pas. Et on sent, mais voyez, ben si tu sens, gloire à Dieu. Ça prouve que Dieu te cherche, que Dieu ne veut pas te laisser tomber comme une paire de chaussettes. Voyez, que Dieu ne te juge pas. Au contraire, il fait en sorte qu'à un moment donné, il y ait une réaction. Voyez, et c'est ce qui se passe. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Pause. Il réfléchit. Et là, regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. À l'Éternel. On n'est pas obligé d'aller le raconter à tout le monde. Pas obligé. Je sais bien qu'aujourd'hui, Facebook, ça part vite. Hein. Ça ne t'est pas arrivé que déjà c'est à l'autre bout de la France. À l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? David, il a formulé. Je t'ai fait connaître mon péché. Je te l'ai dit, Seigneur. Voilà mon péché. Voilà ce qui ne va pas. Voilà où il y a un point faible. Voilà où quelque part, je n'y arrive pas. Je t'ai fait connaître. Hein, il parle de son péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Il a avoué. Et quelque part, il met en pratique ce que l'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, dira des siècles plus tard. Quand il va dire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ce matin, si peut-être tu sens qu'il y a des choses à confesser devant Dieu, mais Dieu est fidèle et juste pour te les pardonner si tu les cites devant lui. Il n'est pas là pour te juger, pour t'enfoncer, c'est pas le couperet qui va tomber. Mais il est là pour te relever. Et d'ailleurs, il le dit. Et qu'est-ce qui se passe? Et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia! Oui. Donc on peut tout dire à Dieu, vous savez. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui voit le diable partout, mais je sais une chose, c'est qu'il est trop content quand je me tais. Quand je dis rien, que je camoufle, que je cache, que je fais semblant. Et ça, on en parlera dimanche prochain. Quand je fais semblant. Mais peut-être ça fait longtemps ou trop longtemps qu'il y a des choses qui doivent être réglées. Mais dis-le au Seigneur. C'est le premier pas vers la bénédiction. C'est le premier pas. Voyez comme quoi, et je reviens à Esther, ce qu'elle a fait en disant au roi, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Ça peut passer inaperçu, mais c'est très important. Parce que ça a été le premier pas. Et regardez, et je reviens à Esther, qu'est-ce qui se passe? Elle dénonce l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Et là, il y a cette petite phrase juste derrière. Voilà. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. C'est très important ça. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Parce que, si vous lisez juste avant Esther, parce qu'elle sait qu'elle est juive, Esther, elle sait que... Et Aman, il fait le fier. Mais quand dans nos vies, il y a des ennemis qui sont là, l'ennemi fait toujours le fier. Hein. Ouais, regarde, t'es chrétien, regarde. Ouais, t'as ça. Mais quand je prends la décision de confesser mon ennemi, la peur change de camp. Et la situation commence à se renverser. Voyez, ça bascule à ce moment-là. Voyez. Et mon frère, ma sœur, si on est avec honnêteté ce matin, de ceux et de celles qui savent dire, Seigneur, voilà mon ennemi ce matin, ce qui me fait la guerre, ce qui m'empêche d'avancer. Un péché, la peur, la crainte, le doute, l'incrédulité, les angoisses, l'amertume, la colère, peut-être les impressions, Parce que ça, c'est un ennemi aussi, les impressions. Hein. Les gens qui marchent qu'aux impressions. J'ai l'impression que, tiens, t'as vu, aujourd'hui, il m'est passé devant, il ne m'a pas dit bonjour. J'ai l'impression que... Mais c'est maladif, ça. Hein. On ne s'en rend pas compte. Et ça pourrit les relations. Ça pourrit les relations. Voyez mais c'est un ennemi, ça. À un moment donné, il faut dire, Seigneur, voilà, tu vois je fonctionne toujours à l'impression. Et ça m'a joué des tours. Mais dis-le au Seigneur. Dis-le, c'est comme un géant, c'est comme un Goliath, tout ça, vous voyez. C'est des Goliaths qui, à un moment donné, ont besoin d'être terrassés. Mais le premier pas pour qu'ils soient terrassés, c'est de le dire devant Dieu. C'est de le dire devant Dieu. Et là, j'aime parce que la peur change de camp. C'est plus Esther qui a peur, c'est Aman maintenant qui a peur, vous voyez. C'est Aman qui... J'ai noté, Aman, ça signifie magnifique, céleste. Vous voyez. Eh bien, le magnifique, il a perdu de sa superbe, hein. Il n'est plus beau à voir. Hein. Il est là sur le lit, là. Oh. Eh oui. Peut-être ce matin, est-ce le temps devant Dieu de citer ton ennemi ou tes ennemis pour être vainqueur. Moi, j'aime l'exemple de Gédéon qui, lui aussi, n'a pas eu peur quand l'ange de l'Éternel est venu le voir. Gédéon, j'aime beaucoup parce qu'il a été gonflé. Moi, je n'aurais pas osé dire à l'ange de l'Éternel ce qu'il lui a dit, hein. Vous rappelez ? Regardez. L'ange de l'Éternel lui apparut. Oh, moi j'aimerais que l'ange de l'Éternel, enfin quoi que c'est plus l'ange de l'Éternel maintenant, mais même un ange. Seigneur, qu'une fois, un ange qui lui apparaît. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus ? Alléluia ! Gloire à Dieu ! Allez, regardez la suite. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Oh, pauvre. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils nous disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Eh bien, ça vous montre un peu l'état d'esprit dans lequel il est. Hein. Ce n'est pas la sérénité. Hein. Hein, je ne sais pas si ce matin, il aurait chanté « Alléluia hein. ». Et regardez, et là, c'est la cerise sur le gâteau. « Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Moi, j'aurais été là, j'aurais tapé sur l'épaule de Gédéon. « Hé, t'as l'ange de l'Éternel devant toi. Dis pas ça. Il va partir. » Quelque part, qu'est-ce qu'il fait ? Il cite son ennemi. Il est en train de lui dire « Je suis découragé. J'y crois plus. » On m'a raconté, mais j'y crois plus. Ce matin, tu peux le dire à Dieu. Seigneur, mon ennemi, c'est le découragement. Je suis découragé, je suis abattu, j'y crois plus. Est-ce que l'ange de l'Éternel lui a dit, ah bon ? Comme au père de famille, là, qui a dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Est-ce que l'ange de l'Éternel a dit, bon, mais ciao, quand tu croiras, je reviendrai ? Non ? Il va lui dire, l'Éternel est avec toi, je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, mon ennemi, c'est le découragement, l'abattement ce matin, je ne peux plus, Seigneur. Tu peux lui dire. Et Dieu va t'aider. Alors je termine. On célèbre la Pâque ce matin, dans ce week-end. C'est le week-end de Pâques. Mais Pâques, c'est quoi ? C'est la victoire de Jésus sur tous nos ennemis. La Pâque, c'est la victoire de Jésus sur la mort, sur le péché, sur le diable, mais sur tout ce qui nous fait la guerre. Et j'aime ce verset. On va l'afficher, Colossiens 2:15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. La Pâque, c'est la victoire de Jésus sur tout ce qui nous fait la guerre, sur tout ce qui est plus fort que toi, que moi, que nous. C'est ça, Pâque, c'est la victoire de Jésus. Et c'est pour ça que ce matin, on peut s'approcher de lui. Et c'est pour ça que ce matin, on a chanté ces choses. Peut-être tu dis, mais moi, je peux pas. Oui, mais c'est normal. Mais lui, il a tout vaincu. Et quand je m'approche de lui, il est celui qui m'aide. Et ce matin, on est comme Esther. Elle était devant le roi ce matin. On est devant le roi des rois. Et on peut venir et lui dire, Seigneur, le méchant dans ma vie, voilà ce qui me fait la guerre, ce qui est là comme un aiguillon et qui m'empêche d'avancer, c'est telle chose. Et tu peux le dire. Et là, la peur va changer de camp parce que c'est le premier pas pour que Dieu puisse commencer à agir. Si je le garde, je vais me battre tout seul, je vais me fatiguer, je vais m'épuiser. Et dans 5 ou 10 ans, on sera toujours dans le même état. Mais ce matin, on peut s'approcher du Seigneur. Vous connaissez la fin de l'histoire, on l'a lu. Je te demande aux musiciens de s'approcher. La fin de l'histoire, on l'a lu, c'est Aman qui avait préparé le bois pour Mardoché. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce n'est pas Mardoché qui est monté, c'est Aman qui s'est retrouvé pendu, on l'a lu. La situation s'est totalement renversée. Alléluia. Sur la croix, Jésus a renversé le cours de l'histoire, de l'humanité. Et ce matin, alors qu'on célèbre la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus, c'est une occasion de rentrer dans, comment je vais dire ça, d'une manière personnelle, dans notre Pâque. Jésus, toi, tu as vaincu. Alors Seigneur, je veux m'associer à ce triomphe en citant mes ennemis. Parce que Seigneur, je ne veux plus que ça continue, je ne veux plus que ça dure, je veux être libéré. Si tu as tout vaincu à la croix, alors c'est aussi pour moi. Et je ne veux pas y rester à l'extérieur, je ne veux pas rester à l'extérieur de ces choses, mais je veux les vivre. Alors bien sûr, il convient de ne pas faire, je l'ai cité tout à l'heure, mais de ne pas faire ce que Caïn il a fait, Caïn il s'est trompé d'ennemi. Ne nous trompons pas d'ennemi. Hein. L'ennemi, ce n'est pas, c'est pas le frère, ce n'est pas la sœur, ce n'est pas un tel ou celui-ci. L'apôtre Paul dira, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. On n'a pas lutté contre la chair et le sang. C'est pas le frère ou la sœur ou un tel notre ennemi. C'est pas ça. L'ennemi, c'est tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant avec le Seigneur. Et ce matin, si on est honnête devant Dieu, alors que dès que juste on prend quelques instants, on peut dire, Seigneur, voilà mon ennemi. Et je te garantis, mon frère, ma soeur, mon ami, que la peur, elle va changer de camp. Et que parce que Jésus a triomphé à la croix, tu vas rentrer dans le triomphe du Seigneur et tu vas voir les choses bouger, les choses changer, les situations se retourner. Parce que là, quand on fait ça, on permet à Dieu d'agir. On permet à Dieu d'agir. On est en train de désarmer l'ennemi. Alléluia. Mais pas nous, le Seigneur au travers de nous. Alléluia. Je voudrais qu'on prenne ce chant.